Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Avec un plateau, encore une fois ce soir, 5 étoiles les amis. Non pas 2, non pas 3, mais 4 débriefeurs sur le plateau de Tech & Co. Jusqu'à 21h, c'est le grand luxe. Nous avons Thomas Serval qui est là. Salut Thomas.
Salut François.
Heureux de te retrouver mon cher Thomas. Thomas qui est PDG de Barracoda, entre autres. À tes côtés c'est Didier Sens. Salut Didier.
Hello.
Journaliste, évidemment tech, depuis de nombreuses années. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir ce soir Augustin Seyer. Salut Augustin.
Bonsoir François.
Qui maintenant partage sa vie entre Paris et les US, voire même plus souvent aux US qu'à Paris. Hein.
De San Francisco.
Voilà.
C'est toujours sympa de revenir à Paris et d'être sur ce plateau.
Eh ben, on est très heureux de t'accueillir et tu sais que tu es toujours le bienvenu. Tu es le cofondateur d'OVNI et bien sûr Frédéric Simotel.
Bonsoir.
Journaliste à BFM Business.
Bonsoir.
Grosse actu et on va commencer donc par cette nouvelle victoire pour Bruxelles dans son bras de fer avec les géants de la tech. Apple vient de perdre donc son recours contre la Commission européenne. Le groupe en fait contestait son statut de contrôleur d'accès prévu par le Digital Markets Act, hein, le fameux DMA. Une décision qui l'oblige à continuer d'ouvrir son écosystème à la concurrence et ça ne plaît pas à Apple. Hein, les explications de Léa Benahim et on revient après sur ce plateau.
Apple a voulu faire tomber son statut de gatekeeper, mais a perdu sur toute la ligne. Le groupe ne contestait pas le DMA lui-même, mais sa désignation comme contrôleur d'accès, un statut qui déclenche toutes les obligations prévues par cette loi européenne. D'abord, l'entreprise estimait que les App Store de l'iPhone, de l'iPad, du Mac ou de l'Apple Watch étaient des services distincts, une manière de réduire le périmètre des obligations qui lui sont imposées. Autre sujet crucial, l'interopérabilité. Selon Apple, contraindre iOS à s'ouvrir davantage aux appareils, accessoires et logiciels concurrents risquerait de fragiliser la sécurité et la confidentialité de ses utilisateurs. Mais là encore, le tribunal de l'Union européenne a dit non. Résultat, Apple restera un gatekeeper. Le groupe devra continuer à ouvrir son écosystème, autoriser des boutiques d'applications alternatives et laisser les développeurs proposer d'autres moyens de paiement. Une décision qui conforte la stratégie de Bruxelles pour limiter le pouvoir des géants de la tech.
Voilà, et c'est vrai que le pouvoir d'Apple est, on va dire, un peu bousculé avec ce DMA. Apple déteste ça, le dit, le répète à chaque fois. Vous savez que dans quelques semaines devrait arriver le fameux Siri AI, qui est la nouvelle génération de Siri. Et Apple l'a dit lors de la WWDC, Siri ne sera pas disponible en Europe tout de suite. On ne sait même pas s'il sera disponible un jour, à cause, entre autres, du DMA. Peut-être qu'il y a aussi un peu de RGPD, mais on en saura plus à la rentrée. Alors, il y a pas mal de choses à dire. Léa a bien expliqué la situation, mais quand même revenir, peut-être Thomas pour commencer, sur cette situation complètement inédite pour Apple d'être aujourd'hui contraint par l'Europe. Apple n'a jamais été contraint depuis 20 ans, 30 ans qu'ils existent. Là maintenant, c'est une autre histoire.
C'est un moment Microsoft, effectivement. On a unbundlé le navigateur qui était, si on se souvient tous, hein, ça a eu un impact important sur la trajectoire de Microsoft. Mais ce qui est malheureux, c'est que il faut bien voir que l'App Store, il s'est créé contre l'avis de tout le monde. Hein. Il s'est créé à l'époque, on pensait qu'il fallait télécharger des fichiers et qu'il fallait laisser à chaque utilisateur. Et les App Store ont gagné. Apple a imposé cette vision.
Il paraît que même Steve Jobs n'était pas OK pour l'App Store au tout début.
En tout cas,
après, il a été convaincu par
Steve Jobs n'était pas d'accord pour ouvrir aux développeurs la possibilité de faire des applications.
Voilà, c'est ça.
C'est ce que moi, j'avais vécu à cette époque-là. Mais donc, grosso modo, il faut voir que cette innovation qui a fait exploser un nouveau business qui était celui de la vente d'applications, elle a tourné naturellement au monopole, puisque quelque part, on ne peut pas d'un côté être l'endroit où on valide les applications. Il y a des pros et des cons. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des contraintes, enfin moi je peux parler d'expérience, Apple met beaucoup de contraintes quant à la commercialisation de ses produits pour éviter qu'on lui détourne des flux de revenus.
Bien sûr.
Ils ont perdu aux États-Unis aussi. Hein. Il n'y a pas qu'en Europe qu'ils perdent.
Hein. Non.
Ils perdent parce qu'ils sont le monopole sur la distribution des applications.
Il y a la Corée du Sud aussi, je crois. Il y a le Japon, il y a l'Australie aussi qui s'en mêle. Enfin, ça commence un peu à craquer peu partout.
Et pour le consommateur, c'est probablement mieux. Je peux donner un exemple assez concret. Aujourd'hui, Apple autorise à vendre sur l'App Store des produits software. Mais beaucoup de produits maintenant sont des bundles entre du hardware et du software. On n'a pas le droit de vendre du hardware sur l'App Store.
Donc je peux pas acheter par exemple, je sais pas moi, un casque audio sur
une
sur la
montre connectée.
Une montre connectée.
Et surtout un bundle entre un produit hardware et software. Mm-hmm. Inversement, Amazon t'interdit de vendre du logiciel. Donc en fait, toutes ces plateformes sont en train quand même de contraindre un écosystème qui pourrait se réinventer autour de trucs intégrés. Et donc c'est pas mal de forcer des alternatives. C'est aussi pas mal de faire en sorte qu'il y ait peut-être des offres alternatives, notamment sur des sujets sur lesquels Apple ne veut pas aller, à cause de l'IA, qu'on va reparler. Mmh. Donc, pour moi, c'est quand même pas mal. D'abord parce que ça fait toujours du bien de secouer un peu l'écosystème. En fait, le problème, c'est que l'Europe est impuissante. Les consommateurs veulent de l'App Store. Apple va faire ce qu'il fait avec Siri.ai. C'est-à-dire, tant que vous restez comme ça, on ne vous donne pas les dernières innovations et les consommateurs ne vont pas le supporter. Donc, c'est pas sûr que, contrairement à Microsoft, qui en 2005 a vraiment perdu et a permis à Chrome d'émerger comme une alternative à Internet Explorer.
Firefox, c'est Chrome aussi à l'époque.
C'est pas sûr qu'on soit dans un marché qui, même si on crée de l'alternative, il y a un tiers européen qui puisse en bénéficier. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est qu'on a l'impression qu'on régule d'un côté, mais sans remède européen de l'autre. Et ça donne, finalement, beaucoup de pouvoir à Apple en disant « Ah, regardez, on me harcèle, on fait des normes, etc. » S'il y avait aujourd'hui une offre européenne viable, stable, qui dise « Voilà, l'App Store européen », et ben là, ça serait intéressant. Et c'est pas, pour le moment, c'est pas le cas.
Pourquoi tu dis que c'est pas mal, alors ? Pour moi, c'est une défaite pour le consommateur européen.
Donc c'est pas mal quoi.
T'as dit c'est plutôt pas mal ce jugement. Moi je trouve que c'est une catastrophe. C'est quand tu cliques sur Google Maps depuis Google, bah, ça t'ouvre plus Google Maps. C'est qu'en fait Siri AI on l'a pas.
C'est tous les disclaimers quand tu vas sur un site web en disant est-ce que vous acceptez qu'on partage vos données, etc.
C'est une commission pour laquelle tu n'as pas voté qui prend des décisions et qu'en fait qui continue de nous réduire à en fait tu disais en 2005 Microsoft, mais à l'époque l'Europe comptait beaucoup plus.
Exactement, non, mais je suis tout à fait.
Aujourd'hui on ne compte plus en fait et pour moi c'est tu sais, tu disais victoire pour Bruxelles, échec pour tous les Européens quoi.
Oui, après je pense qu'Apple a un peu cherché aussi le fait de se faire taper sur les doigts parce que
ils ont 30% du marché. En fait, si t'es pas content avec le système Apple, t'achètes un Android. T'achètes autre chose. Je le comprends
Google
pas.
Google s'est fait condamner pour la même chose. Hein. Ouais. Il faudrait le rappeler aussi. Android ont le même problème. Sûr. Ils ont une amende sévère.
T'achètes autre chose. En fait, Apple, leur grande fierté, ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur ce système fermé, qui protège, qui soi-disant plus performant sur la sécurité, sur les données privées. Tu vas pas forcer quelqu'un qui s'est fait sa réputation là-dessus à dire bon, allez, on vous devait tout ouvrir du jour au lendemain.
Ouais, mais bon, après, ce qui s'est passé, c'est tout a commencé aussi à l'époque d'Epic, lorsque le jeu Fortnite a été retiré de l'App Store, rappelez-vous, parce que Epic essayait de. Non, on y revient, parce que il y a toujours ces 30% de marge que les éditeurs, et alors je sais que tu es éditeur sur Apple Store, ça a du mal à passer pour certains. Tu vois, quand tu prends un Spotify ou un Netflix qui tous les mois doit reverser, alors peut-être pas 30% parce que ce sont des systèmes d'abonnement réguliers, mais des dîmes énormes à Apple, alors qu'ils n'apportent plus rien finalement.
Oui, mais t'es pas obligé de passer par la plateforme Apple pour l'acheter.
Alors si.
Ah bien oui, c'est ça le problème.
T'es pas obligé. Sur Spotify, enfin regarde, Amazon, ils te disent, non, ou YouTube, tout ça, ils te disent, vous pouvez acheter, ça coûte 11,99€. Ouais, mais... Si vous allez en direct sur ce site, c'est 9,99€.
Mais ça, c'est contraire aux guidelines d'Apple, donc quelque part...
Non, c'est pas parce que même Google fait la pub sur YouTube, t'as le droit de le faire. Je pense qu'en effet, ils ont dû taper et tu peux... Là où je te rejoins complètement, c'est qu'en fait, l'Europe, on a été bon... L'Europe, c'est quoi ? C'est développé par son mercantilisme, sa compétition entre les États pour créer de l'innovation. Là, on réglemente un OS, on n'en a pas nous-mêmes.
C'est ça le.
Et donc.
Le souci, c'est ça.
Mais c'est pas une raison pour se laisser faire quand même.
Mais tu te laisses pas faire. En quoi on se laisse faire ? Au contraire, en quoi ça va nous aider ?
Plus ces géants du numérique ont de pouvoir, tu le sais très bien, plus ils vont s'accaparer les richesses des pays européens, les ressources des pays européens, et c'est eux déjà qui traitent nos données, qui traitent le cloud, qui traitent.
Les données, elles sont encryptées en France, il n'y a aucun moyen qu'elles soient accédées aux États-Unis.
En tout cas, c'est les problèmes qu'on a, c'est que tu as un monopole.
Attends, excuse-moi, mais quand t'es sur Facebook ou sur Twitter...
Ah ça, c'est autre chose, elles sont peut-être pas...
T'es traqué dans tous les sens, excuse-moi, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle de la commercialisation de données. C'est leur manière de vivre. Donc,
oui, mais c'est pas comme du marché européen. C'est pas comme ça qu'on va innover, en fait. C'est non, pas mais l'innovation, c'est pas de réglementer.
Ça commence comme ça. il faut poser des règles, parce qu'il n'y a pas de raison que ces gens-là, qui sont richissimes et qui font des bénéfices avec un écosystème qui est complètement
fermé
et déconnecté des usages habituels du commerce traditionnel, que ça continue. Il y a des règles à respecter.
Et à la fin, c'est le consommateur qui vote. C'est le consommateur qui vote avec son
porte-monnaie. Le consommateur, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, OK, vous nous proposez des app stores alternatifs. Tu en as vu beaucoup, des gens qui utilisaient des app stores alternatifs ?
Non, parce que personne. Tu peux pas. Apple, son app store, c'est 2008 ou 2009, j'en sais rien. C'est tout ce travail. Tu peux pas juste dire, tiens, je vais faire un app store.
Alors, ça existe, hein. Il existe des app stores alternatifs. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont aucun intérêt.
Moi, je pense que là-dedans, tu prenais l'exemple des navigateurs, là, il y a quelques années. C'est vrai que, du coup, ça fait monter Chrome, ça fait monter Firefox, qui a disparu, qui a retourné en part de marché. Ça fait pas fait monter Safari, et ça n'a pas fait monter de solutions européennes. Moi, je pense qu'il y a quand même, là-dedans, il peut y avoir un mot vainqueur, c'est l'innovation. C'est-à-dire, ça va forcer les développeurs aussi à chercher un peu, ils vont avoir un peu moins ils vont réduire leurs coûts. A priori, hein, si tout se passe bien, ils vont pouvoir développer moins cher, donc ils vont pouvoir essayer d'innover. Et Apple, ça va les forcer aussi à aller chercher un peu d'innovation.
Mais je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas de raison que Apple soit le seul à profiter des innovations techniques qu'ils mettent en place, même si effectivement, c'est eux qui développent la plateforme. Il n'y a pas de raison que les petits développeurs, les petits programmeurs qui essayent d'accéder
aux ressources
système.
Faut pas me.
Non, mais tu vois le problème.
J'entends bien que le 30% d'Apple, c'est trop élevé.
Mais le problème, c'est qu'il n'y a que comme ça, en régulant, que tu arrives à les faire plier.
Exactement.
C'est ça le souci.
Tu sais quoi,
il n'y a pas d'autre solution
aujourd'hui.
Alors, peut-être pour donner l'exemple, il est effectivement
parce que je pense qu'il y a eu des dialogues. Entre les développeurs et Apple.
Mais même Apple, ils avaient autorisé les boutiques alternatives, ils avaient autorisé toutes les histoires autour de la puce, des puces.
Amazon avait
la réduction des consommations, des commissions, pardon, ils avaient quand même accepté ça. On pouvait.
Oui, mais c'est ça, c'était suite au DMA, frère.
Oui, mais justement. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà fait.
Ils l'ont fait parce qu'ils étaient contraints de le faire. Et je te rappelle qu'ils ont 500 millions d'euros d'amende là, qui est en route.
Oui, mais ça veut dire qu'ils sont capables de faire
contraints.
Bah oui.
En fait, on n'arrive pas avec une multinationale américaine à fonctionner en dehors d'un cadre légal. C'est-à-dire que la multinationale américaine, elle vient du fait que dans l'écosystème américain, tout est autorisé jusqu'à ce que ça soit interdit. Et donc, se constitue assez naturellement, parce que l'informatique veut ça, des monopoles. L'Europe s'est construite, mais également les États-Unis contre les monopoles. Il faut voir que ce challenge sur aujourd'hui, les gens qui devraient challenger le plus et qui le challenge déjà aux États-Unis, c'est Apple qui a 80% du marché, pas les 30% qu'on a en Europe, et que eux ont été contraints, d'ailleurs par la commission, par l'équivalent de l'antitrust organization, déjà à faire baisser leurs commissions, autoriser des bundles. Donc quelque part que Apple soit régulé, c'est normal. Est-ce que la régulation qu'on est en train de mettre sur Apple, elle est applicable? Faut juste rappeler que 500 millions d'amendes, c'est que dalle pour Apple. Ça va pas changer leur comportement. Et effectivement, tant qu'on n'aura pas quelque chose qui soit opérable, c'est-à-dire que pas, tant qu'on mettra des amendes qui sont insignifiantes pour Apple et que celui qui va payer, c'est le consommateur qui aura pas les services, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais clairement, on a besoin de règles parce que pour avoir été côté GAFAM, systématiquement, les mecs te disent, on continue, jusqu'à ce qu'une loi, une condamnation définitive soit portée, et auquel cas on doit respecter la loi, parce que c'est comme ça que les Américains réfléchissent. Et donc, on n'arrive pas à se faire entendre. Moi, mon problème aujourd'hui sur la Commission européenne, c'est que les moyens sont totalement déraisonnables au regard des enjeux et des acteurs qu'ils ont soi-disant régulés, qu'il n'y a pas d'alternative européenne, parce que quelque part, on aurait pu utiliser toute cette procédure débat avec Apple pour faire émerger les app stores alternatifs, au moins sur les applications de santé, au moins sur les applications de défense, au moins sur... On n'a rien fait. On attend juste qu'il y ait une condamnation qui va être probablement mise en appel par Apple. Moi, on me rappelait chez Google que quand on prenait une amende de la Commission européenne, c'était une journée ou deux journées de profit, trois journées de profit. Allez, on va attendre trois ans de plus, ça sera 10 minutes de profit. Donc, notre mode de régulation n'est pas adapté à la régulation des GAFAM, c'est absolument vrai. Ça remonte notre faiblesse. Et à chaque fois qu'on fait ce genre de truc qui finalement ne change pas le comportement d'Apple, on affaiblit l'Europe et on affaiblit la Commission, en fait. C'est ça le problème.
Oui, mais malgré tout, quand on prend un peu de recul, le DMA a fait plier Apple sur pas mal de choses. Les App Store alternatifs, la possibilité
C'est pas eux, ça existe.
Non, Augustin.
C'était de la régulation américaine.
Pas du tout.
Amazon, ils ont sorti leur App Store sur Apple avant la naissance du DMA.
La prise USB-C. Il n'y a pas d'App Store Amazon sur Apple.
À une époque, il y avait.
Un mot pour défendre quand même Apple.
En fait, quand Kindle a été lancé sur Apple, Amazon et Apple se sont frités très fortement parce que Amazon est.
Oui, mais c'était une appli Amazon qui permettait de télécharger des livres.
Oui, fait, non, c'est non, ça. Mais
tu vendais pas. C'était pas un App Store.
Si, si, tu pouvais télécharger n'importe quelle app, mais personne n'a vraiment joué au jeu, comme tu disais.
Et Apple les a bannis. Enfin, il y a eu des conversations très, très violentes. De toutes les manières, t'es sur un monopole, t'as pas envie qu'on te le casse, d'une manière générale. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est que les outils pour les développeurs, c'est ce que tu disais, ce qu'on disait tous. Bah, grosso modo, la réponse d'Apple à ça, c'est désolé, on vous donnera pas nos dernières innovations. Mmh. Et effectivement, pour nous qui sommes des 500 millions de consommateurs, notre punition, elle est collective. Ne sachant pas correctement redistribuer les profits d'Apple au bénéfice des citoyens européens, on prend
Apple prend en otage les utilisateurs européens.
Après, tu retombes dans la culture. Tu parlais de un peu de culture. Tu te retombes dans la culture américaine. Hein. C'est nous, on était les plus innovants, on a été les premiers. Alors, on est les meilleurs. Bah, démerdez-vous. Hein. C'est un peu ce que.
Mais objectivement, moi, je préférais qu'on soit dans un truc où on les fasse payer pour les impôts.
Je trouve qu'on n'a pas prononcé le mot sécurité, mais tu vois, là aussi. Bon, Apple se défend là-dessus, mais il faut imaginer que les autres mettent les mêmes... Parce qu'au moins, on a ça avec Apple, c'est que protection des données, tout ça, a priori, on en reparlera sur d'autres domaines tout à l'heure, ils sont plutôt bons. Donc, si on commence à voir si les autres trouvent qu'ils ne sont pas aussi bons, on va... nos yeux pour pleurer.
Alors, donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que le tribunal européen a retoqué Apple, parce que Apple, évidemment, lance les procédures. Je crois qu'il y en a encore une. Il y a d'autres procédures aussi. Parce qu'Apple,
il y en a sur iMessage aussi. Ouais.
Voilà, n'arrête pas. Parce que iMessage ne rentre pas n'est pas gatekeeper, visiblement. Ouais. Mais. Voilà, il y a un peu un flou là-dessus, parce que rappelons que le gatekeeper, c'est le nombre d'utilisateurs au niveau européen. Hein. Mmh. Dès qu'on franchit un certain nombre d'utilisateurs, on devient gatekeeper. On passe véritablement à autre chose, et on va maintenant s'intéresser à l'IA chinoise, car après les États-Unis, c'est au tour de la Chine maintenant de vouloir verrouiller ses IA les plus puissantes au nom de la sécurité nationale. Et selon Reuters, ces dernières semaines, les autorités chinoises ont tenu des discussions avec plusieurs entreprises comme Alibaba ou ByteDance autour d'une idée claire que va nous raconter Anthony Morel, limiter l'accès de leurs modèles de pointe aux étrangers. On écoute Anthony.
C'est vraiment une nouvelle preuve que l'intelligence artificielle est devenue un actif stratégique pour les États, au même titre que le nucléaire ou que les technologies de défense. Et donc, ça veut dire que concrètement, les futurs modèles de Qwen, Dubao, GLM, on les connaît moins chez nous, mais c'est l'équivalent de ChatGPT, de Gemini ou de Claude, passeront sous les fourches codines des autorités chinoises. C'est-à-dire que pour les modèles les plus basiques, il suffirait d'une simple déclaration, mais pour les modèles un peu plus avancés, il y aurait une évaluation de sécurité. Et pour les modèles vraiment de pointe, les plus sensibles, jugés potentiellement dangereux, là, il serait carrément soit interdit, soit réservé à quelques organisations chinoises et certainement pas à des acteurs étrangers. Pékin pourrait également imposer des restrictions sur quelles entreprises ont le droit ou pas d'investir dans des start-up chinoises d'intelligence artificielle. On en a eu un petit avant-goût, vous vous souvenez, avec l'histoire de Manus, qui était cette entreprise d'IA chinoise rachetée pour 2 milliards de dollars par Meta, et finalement, Pékin a fini par bloquer la transaction. Ça pourrait se générer. Donc si on résume, c'est chacun ses IA et les vaches seront bien gardées, c'est un peu ça. Et ça, c'est un changement de doctrine qui est radical, parce que jusqu'ici, la Chine misait au contraire sur une diffusion très large de ses modèles, avec des modèles qui sont moins coûteux en général, qui sont sur des licences d'utilisation très très libres. Et on le voit d'ailleurs, on voit que DeepSeek, par exemple, est très utilisé de plus en plus par les entreprises, parce que ça coûte beaucoup moins cher à faire tourner que Claude, tout simplement. Alors pourquoi ce revirement ? Il y a un effet miroir avec Donald Trump, l'affaire Mythos, l'épisode où effectivement, on a bien vu que Donald Trump voulait interdire l'utilisation de ces modèles les plus puissants aux étrangers. Les Chinois se disent pourquoi on ne ferait pas la même chose. Et puis, la prise de conscience aussi par Pékin que leurs modèles d'intelligence artificielle n'ont plus rien à envier aux Américains. On a un modèle notamment qui s'appelle GLM 5.2 qui est très très performant. La conséquence de tout ça, c'est une IA qui va être découpée par blocs géopolitiques. Certains parlent maintenant d'un rideau de silicium, comme on parlait du rideau de fer pendant la guerre froide. Donc avec d'un côté la Chine, de l'autre les États-Unis, on peut se demander encore une fois quelle sera la place de l'Europe dans tout ça.
Et oui, alors on va évoquer la place de l'Europe dans tout ça, qui malheureusement est toute petite, mais Thomas, j'aimerais commencer par ton point de vue. C'est vrai que les IA chinoises, tu connais bien, tu les utilises au sein de Barracoda. Comment as-tu, encaissé cette actu, qui n'est pas encore véritablement mise en place, je crois.
En tout cas, pas vraiment, parce que ce matin, j'étais avec le patron de Qwen, qui était au salon de l'IA, parce qu'il y a un grand salon de l'IA à Paris. Donc, ils étaient tous là.
Pour rappeler ce que c'est Qwen.
Alors, Quen, c'est le moteur, le oui, moteur.
C'est pas une partie du cochon.
Open source, enfin pas que open source. D'ailleurs, c'est ce que tu découvres. Ouais. C'est la famille de modèles créés par Alibaba, dont on sait maintenant qu'elles sont largement entraînées grâce aux données des qu'on appelle par distillation ouais. Sur les Américains. Donc, pour le premier point, c'est que les Chinois sont en passe de gagner le marché des modèles open source ou ont gagné le marché des modèles open source. Les modèles open source, c'est la clé pour que l'Europe survive au monopole américain qui est en train de s'imposer à nous. Et donc, en fait, cette mauvaise nouvelle, elle n'est pas mauvaise pour les Américains, elle n'est pas mauvaise pour les Chinois, elle est terrible pour les Européens. Si on ne s'émancipe pas du parapluie américain ou de la détestation de nos amis chinois. Donc, cette petite dispute, c'est un peu comme tous les bateaux qui sont dans le détroit d'Ormuz. Ils n'ont rien à voir avec l'Iran, ils n'ont rien à voir avec les Américains ou les Israéliens.
Et ils foutent la pagaille au niveau mondial.
Et ils sont au milieu. Et ben nous, on est en train d'être exactement dans le détroit d'Ormuz de l'IA. C'est-à-dire qu'on va être pris en otage par ce conflit, qui est un conflit géopolitique pour de bonnes raisons. Il faut voir qu'aujourd'hui, prenons l'exemple de Quen, mais Biden, c'est... Donc aujourd'hui, le meilleur modèle en vidéo, c'est Google et Biden. Le meilleur modèle en générique, c'est Quen et Claude OpenAI. Enfin, c'est deux Américains et un Chinois.
Okay.
Et sur l'embarqué, ce qui est quand même important pour nous, parce qu'on a quand même beaucoup d'autres... Là, c'est clairement les Chinois qui sont les meilleurs sur les petits modèles embarqués. Malheureusement, je ne parle pas de Mistral qui ne joue plus dans la même catégorie de qualité. Donc là, nous, on est en train... Pourquoi la nouvelle, elle est catastrophique? C'est que si ce truc-là, ça s'envenime, si on ne change pas notre posture vis-à-vis des Chinois, on va être la victime collatérale de ce qui est en train de se passer.
Oui, parce que oui, on a du mal à avoir certaines IA chinoises qui sont bloquées par les Américains. Si on a les IA chinoises, enfin les IA américaines qui sont bloquées par les Américains, si on a les IA chinoises qui sont bloquées par les Chinois, qu'est-ce qui va nous rester ?
C'est ça le souci. Les yeux pour pleurer et un déclassement vis-à-vis de l'IA. Il faut voir aussi par rapport à l'open source et pas, Quen est quand même devenu très prédateur, parce qu'il s'est fait quand même pris la main dans le sac en train de s'entraîner sur Claude.
Oui.
Donc quelque part, c'est vrai que les Chinois jouent pas nécessairement...
Ils sont pas très fair-play là.
Ils ont une notion du droit d'auteur qui est très spécifique.
Les Américains, c'est pareil. Hein,
mais DeepSeek avec la distillation. Hein.
Exactement. Tout le monde a utilisé la distillation pour vos utilisateurs. La distillation, c'est quoi? C'est très important. C'est qu'en fait, il suffit une fois qu'on a défait, qu'on a entraîné la première IA, ce qui coûte très cher, il suffit de prendre une autre IA qui s'entraîne sur les données de celle qui a été entraînée pour très cher, et ça coûte pas cher du tout.
C'est comme un élève qui est à côté d'un autre et qui recopie, quoi.
Exactement. En fait. Sauf que quelque part, il devient aussi intelligent, contrairement à celui qui copie, que l'autre. En fait, pour prendre un exemple, Stanford, il y a 3 ans, avait démontré qu'il avait coûté 1 milliard de faire OpenAI et qu'il coûtait $500 de le répliquer.
Waouh.
Donc c'est une sorte de grandeur. Donc en fait, c'est pour ça qu'on peut faire du DeepSeek, c'est pour ça qu'on peut faire du Alibaba.
Et on se souvient que DeepSeek, à l'époque, disait qu'ils étaient tout aussi performants que ChatGPT et que ça avait coûté beaucoup moins cher. Ouais. Pour cette raison.
En partie. Aussi parce qu'ils avaient, si on regarde les dossiers de DeepSeek, les Chinois ont été, par rapport aux Américains, extrêmement ouverts sur la manière dont ils font les choses. Donc en fait, aujourd'hui, les Chinois sont les principaux contributeurs à l'amélioration de la connaissance du reste de la communauté IA non américaine des progrès des différents modèles.
On avait parlé quand DeepSeek était sorti, on avait parlé du moment Sputnik un peu de DeepSeek, et je crois qu'aujourd'hui on voit vraiment que c'était un moment important, parce que DeepSeek, et moi je reviens sur l'histoire des entreprises, aujourd'hui françaises utilisent à fond les modèles chinois, parce que justement ils ont pris le kill switch dans la figure de Anthropic et de ChatGPT 5.6, et là aujourd'hui, enfin moi je les connais tous, ils sont tous en train de dire, nous c'est avec les Chinois, alors c'est de l'open source, c'est du chinois,
juste une petite question,
c'est pour des raisons différentes.
Après évidemment Augustin et Didier vont s'exprimer, mais juste une dernière question. Aujourd'hui on prend par exemple tu disais Mistral qui est complètement largué par rapport aux autres. Pourquoi Mistral?
C'est un peu
non, mais c'est ce que
il est plus dans le top.
En fait, il est plus dans le top.
Top
dans
30.
J'allais dire top 10. C'est le top 30.
Non, il était 80e et il est sorti du classement.
Mais pourquoi n'a-t-on pas fait cette distillation, nous, pour Mistral?
Parce qu'on respecte les règles.
C'est une valeur. En fait, c'est comment dire, c'est une posture intellectuelle, une philosophie, une éthique. C'est ça?
Alors, il faut voir que tout le monde a distillé sur tout le monde et tout le monde distille sur tout le monde. Tout le monde viole les droits de propriété intellectuelle.
Mais pourquoi? Il y en a qui le font mieux que d'autres, c'est ça?
En fait, il faut beaucoup d'argent quand même pour avoir des data centers et des tonnes de data centers.
Il faut que tu entraînes tout ça, il faut des composants et tout ça.
Et une des choses intéressantes, c'est en fait, il faut toujours un modèle plus intelligent pour entraîner un moins intelligent. Donc, pour rattraper, c'est très important d'avoir un modèle intelligent. Et les Chinois se mettant en challenger, c'est très facile de faire ça. Il y a un truc intéressant, c'est GLM 5.2, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un vrai concurrent de Claude Code, et qui, lui, ça, ça serait vraiment très dommageable pour l'Europe, parce qu'il n'y a pas d'alternative Mistral, qui s'est retrouvée sous embargo. L'autre chose par rapport, juste pour donner quelques éléments pour les téléspectateurs, les Chinois ont des modèles open source qui leur servent à conquérir le monde, et ils ont des modèles privés comme Claude, etc., qui sont bien meilleurs que ceux qui sont commercialisés. Mmh. La discussion que j'ai eue ce matin, c'était 30% meilleur que ce qui est public.
Augustin,
tu sais, toi qui étais à San Francisco en octobre, quand t'arrives à San Francisco, t'as les pubs pour plein d'outils IA. Aujourd'hui, ce qui est assez marrant, c'est que t'as plein de pubs pour les modèles open source chinois. T'arrives, t'as Minimax, GLM, enfin, je les connais pas tous, je les connais pas bien. Et ça crée une petite crise aux États-Unis où en fait les gens se disent, bah, entre mettre du GLM, Minimax, etc. sur mon serveur et payer uniquement le coût de l'énergie, le coût du calcul, et prendre du cloud ou du ChatGPT,
coûter une fortune
et payer leur énergie plus un espèce de premium, vaut mieux qu'en fait j'aille sur des modèles chinois et open source. Donc je trouve ça assez surprenant, cette volonté chinoise de dire on va commencer à gatekeeper, parce que ça redonne de l'énergie en fait au modèle cloud et OpenAI.
Ces IA chinoises, comme tout ce qui vient de Chine, va être interdit aux États-Unis. On est d'accord.
Non, c'est pas interdit, c'est open source. Ça n'a rien de chinois en fait. Ouais, une fois que c'est chinois, la liberté. C'est pas chinois, c'est tu prends le truc, tu le fous sur ton ordinateur.
Microsoft distribue dans sa gamme de Azure Cloud, disons.
Ouais, mais derrière, il y a quand même ByteDance, il y a quand même Alibaba, etc.
C'est pour ça qu'il y a des modèles privés, des modèles publics.
Tu peux aller sur DeepSeek et utiliser leur serveur pour faire le calcul, mais en fait, tu vaut mieux prendre leur algo. Et ça, je trouvais ça surprenant. Je me dis, mais c'est marrant, ils étaient en train de taper sur ChatGPT et OpenAI, et là, ça va leur redonner du souffle. Et t'as un peu l'Europe qui est en plein milieu.
Surtout, ce qui est grave, c'est que nous, en Europe, tu cites Mistral, tu vas peut-être citer, peut-être Aleph Alpha, si tu veux, les Allemands et tout ça, ou les Italiens. Mais en Chine, non. Alors évidemment, on parle de Kuen Alibaba, de Baidu et tout ça, mais ils en ont plein. Je regardais les boîtes là. Byron, Morsred, GLM4 de Zipouai, qui est le modèle qui est utilisé par les grandes boîtes françaises.
Ils ont 1,4 milliard.
Mais ils en ont plein.
Ils ont plein de data.
Ils ont le plus grand nombre
d'ingénieurs au monde.
Mais moi, j'en reviens encore sur ce truc-là. C'est à nous de nous poser la question, de dire bon les gars, là si les Chinois, on a eu le kill switch américain. Je ne sais pas si on aura un kill switch chinois parce que c'est open source, etc. Mais il est peut-être temps de se bouger un peu.
Je peux te donner le point positif. Le point positif pour moi, c'est qu'en fait, les modèles, ils commencent pas à stagner, mais ils commencent tous à arriver à un niveau de AGI et AGI qui se rapproche du parfait, pas tout à fait. Et donc, en fait.
Ouais, mais c'est là où il faut que tu verticalises vers l'IA industrielle, vers l'IA de santé, vers des IA comme ça.
Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on fait tout de suite la comparaison avec la stratégie américaine, qui est de dire nos IA sont tellement puissantes qu'il vaut mieux les restreindre et les empêcher d'être utilisées dans d'autres pays que les États-Unis parce qu'il y a des risques, etc., etc. C'est pas ça que les Chinois ont en tête. Je pense que effectivement, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils voient leur savoir-faire, qui commence à devenir au moins équivalent à celui des Américains, utilisé effectivement, comme tu le dis, n'importe où, n'importe comment, dans des conditions qui ne leur apportent rien. Ça peut être peut-être du soft power, un peu de propagande en disant « Regardez, nous les Chinois, on est forts, on est au niveau des Américains ». Mais le revers de la médaille, c'est qu'ils ont besoin de rentabiliser ces choses-là. Parce qu'au bout d'un moment, le problème de l'IA, c'est que ça coûte très cher. Et que même, t'as beau être chinois, t'as beau être sponsorisé par l'État, etc., il va falloir à un moment trouver un modèle économique qui va fonctionner. Et là, en l'occurrence, alors, il y a aussi autre chose, c'est que ils ont pas du tout envie que les Américains interfère avec leur IA. On se rappelle de l'histoire de, je cherchais le nom, mais c'était Manus AI, qui était l'IA qui avait été développée en Chine et que Meta voulait racheter. Meta, les dirigeants de Meta ont rassuré les Américains, ont rassuré Trump en disant on va virer tous les Chinois qui allaient là-dedans, on va empêcher que le modèle fonctionne en Chine. Les Chinois, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Mais arrêtez, c'est quoi cette histoire ? C'est nous qui l'avons créé, ce sont nos ingénieurs, nos produits, vous n'allez pas nous foutre dehors alors que c'est notre bébé. » Donc il y a un peu cette crainte pour les Chinois de voir leur savoir-faire devenir être pillé par les Américains.
C'est pas forcément ça qui les inquiète, les Chinois. C'est plus que ces IA puissent être utilisées contre eux. Je pense que le côté copié, tout ça, ils sont
non, mais contre eux, non. C'est aussi une question commerciale, je suis désolé.
Ouais, je pensais pas dans l'état.